Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la Presse. L'émission qui reçoit les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du forum de ce soir, la reprise des cours au niveau des différents établissements scolaires du Niger après plus de 2 mois d'arrêt pour cause liée à la pandémie de COVID-19. Nous verrons avec nos invités les constats qu'ils dressent de cette reprise, notamment sur le plan du respect des gestes barrières préconisés contre le coronavirus. Adoption vendredi 29 mai dernier de la loi sur l'interception des communications électroniques au Niger. À suivre l'analyse de nos confrères sur les enjeux de cette loi et les réactions qu'elle suscite. Enfin, sur le plan sécuritaire, attaque dimanche dernier du camp des réfugiés d'Intikan dans le département de Tilia, région de Tawa, par des groupes armés non étatiques. Le bilan fait état d'au moins 2 morts. Pour en discuter, nous avons invité nos confrères Ousseini Issa, journaliste freelance. Ousseini, bonsoir.
Bonsoir.
Et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara, qui est au téléphone avec nous. Maimouna, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse de Studio Kalangu de ce vendredi 5 juin 2020. Nous débutons ce forum par la reprise des cours dans les différents établissements scolaires du Niger après plus de 2 mois d'arrêt pour cause de COVID-19. Quel constat avez-vous fait concernant cette reprise, notamment du point de vue de disponibilité des dispositifs de lavage des mains et du respect des gestes barrières préconisés contre le coronavirus? Je commence par vous, Maimouna Diado.
Bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde. Effectivement, la reprise des cours s'est effectuée le 1er juin. Et il fallait s'attendre, il fallait s'attendre avec cette reprise que les dispositions n'ont pas été au rendez-vous. Et quand je dis les dispositions n'ont pas été au rendez-vous, c'est que dans certaines écoles, surtout publiques, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu le respect, en fait, de ces gestes barrières, comme l'avait annoncé le gouvernement. Il y a des écoles qui sont dépourvues, où les élèves étaient dépourvus de bavettes. La distanciation n'était pas respectée. Le lavage des mains pour certaines écoles n'a pas été également respecté. Donc, véritablement, il fallait s'attendre à ça. Quant aux écoles privées, ça va, là-bas, ça va, parce que les fondateurs n'ont pas attendu le gouvernement pour pouvoir mettre les élèves dans cette situation donc de respect des gestes barrières.
Mais Mouna, est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est pour manque de suivi ou en tout cas manque de mise à disposition justement de ces écoles?
Mais ça ne peut être qu'un manque de suivi aussi. Les dispositifs sont visibles. Il y a les dispositifs. Il y a, c'est pas les bavettes qui manquent aujourd'hui au niveau donc la confection de ces bavettes là. Nous avons vu ces confections et le gouvernement ne peut pas annoncer aujourd'hui une reprise de ces cours là sans pouvoir prendre ces mesures. Ça veut dire que en fait c'est un manque de suivi, c'est tout. Je pense que c'est un manque de suivi. Mais s'il y a nécessité.
Nous revenons au studio. Gare Amadou, alors, vous, quel est le constat que vous avez pu faire, notamment lors de cette reprise des cours au niveau des différents établissements scolaires? Constat en termes de disponibilité des dispositifs de lavage des mains et du respect des gestes barrières au niveau de ces enfants, de ces élèves?
Oui, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Maimouna parce que, sauf sur un point, quand elle dit que c'est un manque de suivi, non, c'est un manque de préparation. Vous savez, cette rentrée-là a été mal préparée sur plusieurs points. Mmh. J'ai toujours l'habitude de dire, avant une rentrée scolaire, que ce soit une rentrée scolaire normale ou que ce soit une rentrée après une interruption due à quelque chose vraiment d'imprévu, Il faut réunir tous les acteurs sociaux, il faut réunir les syndicats, les parents d'élèves, n'est-ce pas? C'est après coup qu'on a convoqué les parents d'élèves pour dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Non, c'est en concertation avec tout le monde qu'on jette les bases d'une bonne rentrée. Et les parents d'élèves vont demander, bon, d'accord que les enfants partent à l'école, mais qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu des bavettes à distribuer pour chaque élève? Non, il n'y en a pas pour chaque élève. Est-ce que vous avez prévu des dispositifs de lavage de main dans toutes les écoles? On a constaté que dans certaines écoles, il n'en avait pas. Donc, vraiment, c'était très mal préparé. Et encore le fait le plus dramatique, c'est pour les enfants, par exemple, d'école primaire, qu'on leur dise qu'il n'y a pas de récréation. Le traumatisme...
C'est un aspect sur lequel, justement, nous allons y revenir au cours de cette émission.
OK. Ouais. Donc, mais vraiment, dans l'ensemble, pour moi, ce que j'ai constaté, ce que j'ai senti, c'est vraiment une rentrée bâclée dans la précipitation. On dirait qu'il fallait juste faire la rentrée sans problème. Et c'est pourquoi j'ai dit que, quelque part, on a mis la vie des enfants en danger, parce que, heureusement, il n'y a pas de cas de Covid au Niger, mais vraiment, ça doit servir de leçon pour la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Avant de faire la rentrée scolaire...
Il n'y a pas de cas de Covid-19 ou il y a de moins en moins de cas.
De moins en moins, je veux dire.
Voilà.
Oui, parce que bon, c'est clair. De moins en moins, c'est vrai qu'on sent que ça... ça... Ouais. Mais j'ai dit, vraiment, on a pris de gros risques. Il ne fallait pas tout simplement appeler les enfants, les parents à amener les enfants à l'école. Il fallait tout simplement mettre les dispositions, prendre des dispositions. Pour moi, c'est le gouvernement qui devait mettre des bavettes dans tous les établissements scolaires.
Et donc ça, vraiment, le constat est clair, c'est que non. Dans beaucoup d'écoles, cela a fait défaut.
Ce que Mémoun a dit est vrai. C'est-à-dire que dans les écoles privées, là, on sent une préparation. Parce que comme c'est des écoles privées et que les élèves, leurs parents payent. Donc, il y a un minimum qu'on doit prendre pour que ces enfants-là soient en sécurité, les dispositions aient été prises.
Vous avez évoqué, vous évoquez tout à l'heure, notamment cette question de récréation. Effectivement, dans certaines écoles font journée continue et dans d'autres, il n'y a plus de récréation pour les enfants. Et certains enfants sont donc obligés d'apporter individuellement leur manger.
Oui, ça c'était la première mesure catastrophique pour moi de cette rentrée scolaire-là. Parce que imaginez un enfant, n'est-ce pas, d'école primaire, qu'on dit qu'il n'y a pas de récréation. C'est-à-dire qu'à l'heure de la récréation, vous êtes là. Il y a un traumatisme. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte. Pour un enfant, le jeu, c'est naturel. Est-ce que vous comprenez? C'est naturel, le jeu. Mais on dit non, il faut préparer à la maison et puis amener. Bon, c'est compliqué.
Mais et surtout que ce n'est pas tout le monde qui prépare pour amener. Ça veut dire que certains enfants peuvent se retrouver en train de manger, d'autres sont là à les regarder. Voilà.
Non, vous savez, l'enfant, c'est le jeu. C'est-à-dire, on ne peut pas faire. Sinon, on va créer un traumatisme chez l'enfant. Mais heureusement, je crois que cette mesure d'interdiction de
récréation,
oui, elle a été levée, parce que selon ce que j'ai entendu dans une école, on a dit non, maintenant il y a la récréation. Heureusement donc, c'était une erreur déjà grossière.
Alors, Houssain Issa, vous avez suivi, comme tout le monde, cette reprise des cours après l'interruption pour cause de Covid-19. Aujourd'hui, quel est le constat que vous avez pu faire? Est-ce que c'est le même que celui qui dressait Maimouna Diado et Gary Amadou sur l'impréparation constatée et sur l'absence du respect ou de la disponibilité, en tout cas de mesures de prévention contre cette pandémie?
Je suis entièrement d'accord avec Gary, je suis entièrement d'accord avec Maimouna. Je suis allé interroger le SG du SNEN, Issou Azika, et d'autres membres du SNEN, le même jour, pour savoir exactement c'est quoi leur constat, le premier jour. Il fallait s'y attendre. C'était juste faire une rentrée pour dire on rentre. On ne blague pas avec l'école, surtout dans un contexte de crise sanitaire. Vous préparez tout à votre niveau, au niveau des ministères, sans associer ni les syndicats, ni les parents d'élèves, ni les scolaires même, pour dire, bon, voilà les dispositions qu'on va devoir. On va trouver les mécanismes à mettre en place. Tout ça n'a pas été fait en amont. C'est à la dernière minute, comme Gary l'a dit, c'est à la dernière minute, on les appelle pour leur dire, voilà. Les bavettes, c'est quelque chose de simple pour nous, parce qu'on confectionne des bavettes qui sont vendues à 100 francs. N'est-ce pas?
Ouais.
On dit non. D'abord, à l'école primaire, ce n'est pas indispensable parce que les enfants sont moins vulnérables. À l'école primaire. Du coup, ils n'ont pas droit. Et c'est la même chose au niveau du secondaire.
Il y en avait qu'on a profité pour donner à certains enseignants, à donner plus aux enseignants, à favoriser.
Laisse-moi finir. J'ai causé avec les fondateurs d'école. J'ai causé avec des gens d'inspection, des inspections.
Ce n'est pas le cas.
Un fondateur d'école qui a quitté vers l'aéroport là. Parce qu'on l'a convoqué, on lui a demandé de venir chercher le matériel, le dispositif. L'école privée, c'est une école privée. Il vient, il prend une 4x4, il vient au niveau de l'inspection. Parce qu'il pensait que c'était des cartons, il fallait mettre ça.
Dans un véhicule et partir.
On lui donne 6 bavettes.
6 bavettes.
Je te dis, il a quitté.
Pas de dispositif de lavage de main ni de savon.
6 bavettes. Les bavettes qui sont vendues à 100 francs. Et j'ai discuté avec des proviseurs. Où il y en a des écoles où on a donné juste, on dit bon, l'enseignant, vous avez droit à une bavette. Il y en a dans certains établissements où on a donné 2 bavettes, il y en a.
Alors en grosso modo,
c'est que. Le dispositif, l'école, le proviseur de l'établissement là, c'est un établissement public. Il n'y avait qu'un seul dispositif, le dispositif on l'a installé devant l'administration publique. Ils m'ont fourni des photos où les enfants s'amusaient, ils couraient dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été annoncé comme préparation, rien n'a suivi. Il fallait juste reprendre les cours pour que l'année ne soit pas blanchie, parce que quand l'année va être blanchie, ça va être une conséquence, parce que les écoles privées, là, les parents ont payé. Il y en a peut-être qui n'ont pas fini les dernières tranches. On blanchit l'année, ça veut dire que l'enfant qui va reprendre la classe, il ne revient pas aux parents de payer, c'est à l'État de verser l'argent au niveau des écoles.
Et donc, on ne s'amuse pas
avec ces genre de
choses. Est-ce qu'on peut rectifier aujourd'hui les tirs?
Mais rectifier en quoi faisant? On aurait pu mettre en place. J'ai vu des classes, il y a beaucoup de classes qui sont en paillotte, qui sont effondrées. Il y a des régions, actuellement, des zones du pays où on a parlé de rentrer, mais il n'y a pas eu rentrée jusqu'ici. Parce que toute l'école est en paillote. Mais alors, s'il n'y a pas de classe où les enfants peuvent venir s'asseoir, même les bancs là, les tables où les bancs,
Donc pour vous, il n'y a pas moyen de rattraper.
Rentrée scolaire ordinaire même, ça c'est une reprise. Rentrée scolaire ordinaire pour donner les cahiers aux enfants. Il y a des zones où il faut attendre peut-être 2-3 mois avant que les enfants ne commencent véritablement les cours. Et les enseignants ne sont même pas sur place souvent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la saison de pluie. Il y en a qui ont semé, il y en a en campagne.
Alors, Houssaini, nous allons demander à Maïmouna. Maïmouna, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, malgré le constat que nous venons de dresser, est-ce qu'on peut rectifier le tir? En quoi faisant, par exemple?
Moi, je pense, le pense aussi Houssaini, on ne peut pas rectifier, en fait. Rectifier, parce que là, vous avez déjà 45 jours. Les enseignants ont 45 jours pour dispenser les cours. Et dans 45 jours, qu'est-ce qu'il faut rectifier? Je pense que maintenant, le mal est fait. Ce que les gens, la population ou bien les Nigériens ont constaté, ce qu'ils ne devraient pas constater. Maintenant, c'est de mettre le maximum pour que cette année soit sauvée. Les 45 jours dont ils ont promis pour le sauvetage de l'année, doivent être, c'est tout. Moi, je pense que c'est tout.
Sur le plan prévention de la maladie à coronavirus...
Sur cette prévention... L'État peut toutefois se racheter en envoyant l'équipe de lavage de mains, les bavettes dans ses écoles, et ensuite en faisant un suivi pour la distanciation. C'est ça qui est très important, parce que il s'agit pas d'envoyer également tout le matériel nécessaire et ne pas faire le suivi. Donc c'est ce que moi je pourrais augmenter sur ça. Véritablement, je pense pas
un mot sur cette question.
En fait, je pense que...
Sur la façon de rattraper, s'il le faut.
Oui, la façon de rattraper, c'est déjà ce que Mémoun a dit. Il faut d'abord mettre à la disposition de chaque établissement scolaire les bavettes nécessaires pour tous les enseignants. Quand je vois ce que Houssaini nous a, l'histoire qu'il nous a racontée, 3 bavettes pour un établissement scolaire, c'est le directeur, le surveillant qui prend, et puis je ne comprends pas. Donc,
il faut les mettre à la disposition des enseignants. Et l'idéal serait que, j'ai dit, pour chaque classe, n'est-ce pas, qu'on puisse donner des bavettes aux élèves, n'est-ce pas, des bavettes qu'ils peuvent laver, je ne sais pas, pour le donner. Ça, il faut le faire. Pour le kit de lavage de main, normalement, l'idéal serait que devant chaque classe, qu'on puisse en installer un. Devant chaque classe, les élèves, avant de rentrer, ils lavent leurs mains. N'est-ce pas? Quand ils sortent à la récréation, ils reviennent, ils lavent leurs mains au niveau. À défaut, entre deux classes, mettre un kit de lavage de mains. Ça, on peut le faire. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait faire le plus urgent concernant les prochains examens, pour les classes d'examen, parce que moi, j'avais pensé que les écoles primaires, il y a eu déjà deux compositions. On peut valider l'année avec deux compositions, ça va, ne pas laisser les enfants continuer à rester à la maison par mesure de prudence. Pour les écoles, enfin le secondaire, il ne faudrait pas qu'on fasse des examens sur la base des programmes non achevés.
On a vu que déjà les dates ont été données, 6 août pour le brevet.
Il faut que les épreuves correspondent à ce qui a été fait. C'est-à-dire, il ne faut pas pénaliser les élèves. Il ne faut pas qu'on fasse, par exemple, des épreuves sur des matières qui n'ont pas été achevées. Vous comprenez? Il faut comprendre, faire le bilan à la fin. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'exécution du programme? En fonction de ça, faire des épreuves que les élèves peuvent en tout cas maîtriser.
Rapidement, nous allons passer au second sujet.
Ce que je veux dire, là où c'est difficile, les gestes barrières et tout, c'est difficile, c'est parce que tout simplement, vous êtes confronté à une situation qui est là. Moi, j'ai dit, aussi bien au niveau de l'école primaire, on sait le système, comment ça se passe. Gary vient de le dire, il y a eu déjà des évaluations. On fait passer, on sait que c'est le système de passage automatique.
Et on se concentre sur les classes d'examen.
Ça n'a pas été fait. On dit, il faut que tous les enfants viennent. Mais s'il vous plaît, des classes de 80 élèves, 100 élèves, il n'y a pas. Mais attends, quand tous les enfants viennent, où sont les classes où on peut faire le partage pour mettre
des distanciations sociales?
Non, ça pose un problème.
Oui.
Ça pose un problème.
Ousseini, nous allons passer au second sujet de cette émission. Autre sujet, c'est vendredi 29 mai dernier, vous vous en souvenez, la loi sur l'interception des communications électroniques au Niger a été adoptée à l'hémicycle en l'absence des députés membres de l'opposition qui ont préféré quitter. Jugeant cette loi liberticide. Ousseini, le vote de cette loi, pour vous, est-ce une avancée ou un recul pour le Niger?
Bon, moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris que la loi soit votée.
Mais est-ce une avancée ou un recul?
L'argument qui a été avancé, il faut lutter contre le terrorisme. Moi, je suis un peu choqué par rapport à ce que, d'abord, les populations des zones les plus affectées par le terrorisme, notamment la région de Diffa, la région de Tel Abyei, ceux qui sont en train d'endurer pendant combien d'années? Les privations qui sont en train d'endurer. Tout ça, là, ça ne suffit pas. On a des gens qui sont venus nous aider pour combattre ce terrorisme-là. Tout ça, là, si ça n'a pas suffi. Maintenant, on dit non, il faut contrôler
les appels téléphoniques,
les mails des gens. C'est ça qui va permettre de gagner la bataille. Il y a beaucoup de zones, aujourd'hui, la zone de Tel Abyei, dans la région de toute la région de Tel Abyei, pratiquement en dehors du département de Kolo, une partie qu'il y a de Tawa.
Sont sous état d'urgence.
Depuis combien d'années que ça dure où on empêche aux gens de mener leurs activités. Mais ce qui est choquant dans l'affaire, pendant qu'on dit aux gens, vous ne pouvez pas circuler en moto, vous ne pouvez pas faire ceci, cela, voilà des gens qui rentrent. 50 motos, 100 motos, ils viennent, ils s'en prennent à un machin, un dispositif, une installation. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils tuent.
Alors
on n'a pas pu combattre, on n'a pas pu. Parce que moi, je ne dis pas, on ne peut pas empêcher qu'il y ait ce genre d'attaque. Mais tu viens faire, mais toi, tu ne vas pas échapper. Parce que s'il y a véritablement un travail à faire, ce n'est pas en interceptant les télécoutiles. Non, il y a quelque chose...
Alors,
en dessous.
Pour vous, Ousseini, quels sont les enjeux liés justement à cette loi et les réactions qu'elle suscite?
C'est quel enjeu? On a dit il faut Tel Abyei, on a connu tout machin. Je peux vouloir prendre ma moto pour aller à Baléa. On va m'arrêter pour me dire c'est interdit de circulation. Pourquoi? Ça a servi à quoi? Il faut qu'on arrête la diversion. Ces histoires de communication, de télécommunication, j'ai dit, ça a été fait, le ministre a dit depuis longtemps.
Alors, je reviens toujours à ma question, Ousseini Issa. Est-ce une avancée ou un recul pour le Niger?
Non, mais pour moi, c'est un recul. On ne peut pas. Hey, il faut arrêter. En tout cas, moi, j'ai dit en matière de démocratie, quand on a affaire à ce genre de situation-là, quand on a affaire à ces genres de situations, il faut trouver les solutions idoines. Il ne faut pas se mettre tous les jours à penser qu'on peut inventer des choses ou des mécanismes, trouver des mécanismes. Ce mécanisme-là est contre-productif. Dire qu'on va surveiller tout le monde, on va mettre les gens, machin, on va mettre c'est un dispositif en place qui va... Ça va servir à quoi? Si c'est peut-être pour écouter certaines personnes, les gens qui sont critiques. Et puis, moi j'ai dit, voilà, c'est ma pensée, c'est l'objectif. Pouvoir surveiller, y compris les mails, les
X ou Y, pour vous, c'est l'objectif.
Non.
Alors,
non,
nous allons voir avec Maimouna Diado qui est au téléphone. Maimouna?
Oui.
Alors, vous avez suivi avec nous, en tout cas, cette actualité, notamment le vote de cette loi sur l'interception des communications électroniques. Comment vous avez accueilli cette information qui, pour beaucoup, constitue une atteinte à la vie privée et à la liberté d'expression? Au contraire, pour les autorités, ces projets de loi concilient l'exercice des libertés avec les impératifs de sécurité nationale.
Pour vous dire, j'étais d'abord sidérée. J'idérais de voir que jusqu'à présent, ici au Niger, il y a des lois où nos parlementaires prennent toujours le devant pour pouvoir voter ces genres de lois. C'est d'abord une loi anticonstitutionnelle pour moi. On ne peut pas priver aujourd'hui un Nigérien de ses appels téléphoniques privés. Parce que c'est la loi qui lui donne ça, c'est la loi qui l'autorise. On ne peut pas aujourd'hui demander à combien de millions de Nigériens d'être mis sur écoute. Et aujourd'hui, moi, ce que je pense bien sûr de cette loi, c'est que je ne sais pas ce que le gouvernement cherche à quelques pas de la fin du mandat du président de la République. Je pense que les Nigériens n'ont pas besoin de cette loi. La loi-là, on nous a dit que c'est en fait pour... c'est pour intercepter les communications terroristes. Les communications terroristes. Aujourd'hui, nous savons tous où se trouvent les terroristes. Est-ce qu'on a besoin d'intercepter ces communications pour aller vers ces terroristes? La zone de Tillabéri, comme l'a dit Ousseni, la zone de Diffa, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un appel téléphonique ou bien d'intercepter un appel téléphonique ou bien un mail pour pouvoir intercepter un terroriste? Je pense que ce que le gouvernement cherche à travers ça, c'est juste qu'on veut aller vers une pensée unique. Ne pas critiquer ce qui est critiquable, dire une vérité, par exemple, qui n'est pas vérité, faire taire tout le monde et mettre tout le monde au pas.
Alors, est-ce que vous pensez que cette loi peut peut-être provoquer des abus? Peut aboutir à des abus.
Mais ça peut provoquer des abus. Ça peut provoquer des abus parce que nous savons déjà qui est qui peut-être sont dans cette fourchette d'interception de communication. Nous savons déjà, avant même que la loi ne soit votée, vous avez entendu le ministre de la Justice, de par ses propos, que les Nigériens étaient sous écoute depuis. Donc, vous voyez, ça veut dire que avant même que cette loi soit votée, les Nigériens sont sur écoute. Et les Nigériens, nous savons quels genres de Nigériens sont sur écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, un terroriste, ce n'est pas un terroriste qu'on cherche en écoutant les appels téléphoniques des uns et des autres. Mais peut-être pour l'État, ça servira de faire taire les récalcitrants, ceux qu'ils appellent les récalcitrants, les faire taire pour qu'il n'y ait plus véritablement de divergence, qu'il n'y ait plus une position négative, peut-être de la malgouvernance que nous constatons aujourd'hui aussi au Niger. Moi, je pense que c'est mon avis, et je pense que réellement, véritablement, il y a d'autres sujets plus brûlants, il y a d'autres problèmes que les Nigériens ont besoin de régler ensemble, et que ce n'est pas le moment d'amener tout ceci. Peut-être c'est pour nous faire oublier également ce fameux dossier du ministère de la Défense nationale.
Bien, nous revenons au studio, Maimouna, pour donner la parole à Gary Amadou. Alors, quelle est votre analyse, votre point de vue par rapport à cette loi?
Oui, sur l'interception des communications électroniques. Je ne suis pas aussi catastrophé que mes deux interlocuteurs. Je pense que la plupart des gens qui critiquent cette loi n'ont pas suivi les débats qui ont été retransmis poursuivre les articles 1 à 1 jusqu'à l'article 34. Mmh. La plupart des gens parlent comme ça dans l'air. Et vous savez, il faut d'abord lire, savoir, avoir entendu les articles 1 à 1 jusqu'à la fin pour savoir ce que cette loi l'a dit.
Alors vous l'avez fait?
Oui, je l'ai fait.
Vous pouvez nous donner une idée?
Non, mais en fait, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le processus même d'écoute. Avant-hier, j'étais chez mon garagiste et il y avait un vendeur de friperie qui est venu. Il dit, ah oui, oui, maintenant vous voulez amener une loi, vous allez écouter toutes nos conversations. J'ai dit non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toutes les conversations. D'abord, l'autorité et demande à ce qu'on écoute X ou Y. Elle le soumet à la commission là qui va être mise en place, qui contient 7 membres. Donc, un député de l'opposition, un député de la majorité. Ce qui est déjà un gage de garantie de sérieux. Parce que pour moi, si on pense que le député de la majorité va avaliser tout ce qui va se passer, le député de l'opposition sera là pour, en tout cas, constater que les choses se font dans les règles de l'art. Et qu'il faut que la demande, si c'est du président de la République, qu'elle soit motivée. Et la commission peut soit rejeter, soit accepter l'écoute.
Donc, il y a cette commission, une commission
bien sûr, de sept membres,
de magistrats, qui est normalement censé...
C'est elle qui va étudier.
Étudier la demande...
Bien sûr, de l'autorité. Puisque l'autorité,
sur, écoute, mais
si,
écouter...
l'autorité va dire, bon, moi je veux qu'on écoute Alassane Kouzi, parce que voilà, Alassane Kouzi, il paraît qu'il a des liens avec des gens, voilà, etc. Est-ce que vous pouvez me le mettre sur écoute? La commission se réunit, n'est-ce pas? Et puis elle décide, elle peut rejeter. Donc il ne faut pas que les gens pensent que systématiquement, c'est tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Il faut que la demande d'abord soit motivée et qu'elle soit... Deuxième chose, j'ai dit, la garantie, ce que la présidente du député de l'opposition... dans cette commission-là, est un gage pour moi du travail sérieux.
La question que soulève, de fond que soulèvent nos confrères Maimouna et Ousseini Issa, c'est qu'on a vu beaucoup de mesures, en tout cas, justement pour faire face à cette question du terrorisme, notamment ces questions d'état d'urgence, d'interdiction de circulation, de fermeture de marché dans beaucoup de régions qui sont notamment Diffa et Tillabéri qui sont sous la menace terroriste. Et que, en tout cas, au CENI, eux ne voient pas en quoi les écoutes peuvent permettre de prendre le pas sur ces hommes.
Vous savez, c'est ce qu'on avait dit, j'ai toujours l'habitude de le dire. Par exemple, je prends l'exemple de Diffa. Si on n'avait pas interdit l'interdiction, si on n'avait pas interdit la circulation des motos, c'est vrai que maintenant il y a des attaques, mais ça aurait été encore plus catastrophique. Je suis sûr de ça. C'est vrai que les gens n'ont pas fait une sorte d'étude pour savoir l'impact entre la période où les motos circulaient, les attaques, et la période où les motos ne circulent pas, quelle est la différence. Je pense que quoi qu'on dise, c'est pas que les attaques sont finies, mais quelque part ces mesures ont restreint quelque part ces attaques-là, parce que ça pouvait être vraiment plus catastrophique. Mais c'est vrai que dans la région de Tillabéri, c'est un peu compliqué, parce que c'est plus large, c'est plus vaste.
Alors, Gary, est-ce qu'aujourd'hui, les Nigériens ne sont pas dans leur bon droit de s'inquiéter en entendant le vote d'une telle loi?
Pour moi, oui, à première vue, on peut s'inquiéter. Mais j'ai dit, la composition de cette commission-là est une garantie, en tout cas, du travail bien fait. Et j'ai dit, la plupart des gens ne comprennent même pas cette loi. En fait, ils ne comprennent pas cette loi. Ils ont des appréhensions qui sont somme toute naturelles, mais qui nécessitent à ce que les gens s'imprègnent de ce que ces différents articles, ces 34 articles là disent, pour pouvoir se faire une idée. Sinon, quand on fait des discussions comme ça à l'emporte-pièce, eh bien, qu'est-ce qui se fait? On se gourre, on va droit dans le mur, on voit tout faux. Et alors que la réalité est tout autre.
Cela pose la question, peut-être la question de communication ou de vulgarisation
de ce genre de loi. Déjà, quand la loi a été votée, des gens voulaient avoir cette loi. Parce que les gens qui n'ont pas suivi, bien sûr, les débats qui étaient retransmis, les gens voulaient avoir cette loi-là, cette copie de la loi. Et je me suis dit que bon, on n'a pas, puisqu'il y a eu des amendements entre le texte que le gouvernement a donné et le texte qu'il a débuté, il y a eu des amendements, des changements, qui vont être apportés pour que le texte soit cette fois-ci plus potable, quoi.
Ousseini Issa, est-ce que vous avez ces informations par rapport à cette fameuse commission qui est normalement censée statuer sur les demandes de mise sur écoute d'une personne?
Bon, d'un individu. Dans tous les cas,
et dont la composition pourrait constituer un gage de
crédibilité et de... Marou, ça lui a échappé. Oui, il parle même à l'époque. Il dit que ses propos étaient sortis de leur contexte. qu'à l'époque, sous les pinces, les gens se mettent derrière les murs pour écouter et rapporter. Ce n'est pas ce contexte-là. Pourtant, ça lui a échappé parce que tout simplement, c'était une boucle. Le fait de dire, vous êtes écoutés, on va vous écouter aujourd'hui, on va vous écouter demain. Nous sommes en train juste de formaliser. Mais je dis, et quand on fait le lien, c'est avec l'insécurité armée. C'est-à-dire les attaques terroristes qu'on connaît à Diffa, à Tillabéri, où on a privé aux populations que, ces zones-là. Aujourd'hui, je connais des enseignants, grâce aux motos, ils se déplacent du village pour venir se ravitailler et puis pouvoir retourner.
Et ça, c'est
parce que
plus
les
possible.
Zones, ce n'est plus possible depuis combien de mois. Tout ça là, vous avez expérimenté, ça n'a pas donné. Et vous vous levez un beau matin, vous dites non, on le prend parce qu'on peut. Non, non. Il ne faut pas s'amuser avec la conscience des gens. Moi, pour moi, c'est une loi qui est là, qui n'a pas sa raison d'être. Parce que si, avec toutes les mesures que vous avez prises, moi, j'ai vécu en campagne, je sais, une moto qui roule, le bruit là, quand c'est dans la zone, ce n'est pas possible que les gens ne puissent pas entendre, surtout quand c'est la nuit. Parce que c'est calme et les gens vont entendre les bruits. Quand il y a une centaine de motos, une cinquantaine de motos qui se suivent, et que... Ils viennent, ils posent, ils perpètent les actes. Et tout ça, là, ça n'a pas suffi. Pendant qu'on a empêché aux populations, on a fermé des marchés. Non.
Alors, ces conseils dont on parlait.
Quel conseil? Le conseil va faire ceci, cela, encadrer des trucs comme ça.
C'est important, c'est nécessaire.
Oui, mais c'est juste un dispositif. Il y a eu combien de dispositifs qui ont été mis en place ici, sous ce régime actuellement, on dit, on va mettre ça là en place pour pouvoir faire telle chose. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui change?
Donc c'est pour vous, vraiment, vous êtes
sceptique? C'est juste un dispositif qui va être mis en place, là. C'est juste un dispositif où on peut décider de... Bon, il faut écouter un tel. Mais si l'opposition, moi, pour moi, l'opposition peut être... Le député de l'opposition, comme Gaël le dit, n'est pas d'accord. Mais qu'il dise qu'il n'est pas d'accord, même, ça ne va pas empêcher qu'on va mettre la personne sur écoute. Bien. Ça va changer quoi?
Maimouna Diado, Maimouna, rapidement, un commentaire sur cet aspect. Notamment que, en tout cas, cette loi, elle est encadrée.
Tout ce que nous espérons, c'est que le comité fasse très bien son travail. Et nous verrons la suite, ce que ça va donner. De toutes les mille manières, comme on le dit, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Les hommes passent, mais l'histoire reste comme on le dit. Donc nous verrons ce que ça va donner. Nous verrons si c'est, en fait... la réalité des choses, comme ça a été dit et voté au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien il y aura d'autres, il y a des sous-entendus que nous pourrons peut-être au fur du temps également voir comment se déroule cette situation, la procédure.
Nous revenons en studio. Alors, pour entamer le dernier sujet de cette émission, sur le plan sécuritaire, je le disais en début d'émission, une attaque menée donc par des groupes armés non étatiques a visé le camp des réfugiés d'Intikan, situé dans le département de Tilia, la région de Tawa. Alors, Maimouna Diado, comment analysez-vous cette attaque contre un camp des réfugiés et est-ce un changement de stratégie de la part des groupes armés non étatiques?
Je me dis d'abord, il faut déplorer d'abord la perte en vie humaine de ces trois donc hommes, la perte de ces vies humaines où nous avons enregistré deux réfugiés et un chef coutumier nigérien en fait de cette région de Tawa. Et je me dis que en fait c'est une nouvelle stratégie parce que là, quand je dis c'est une nouvelle stratégie, vous avez vu, ils ont pillé donc les vivres destinés à ces réfugiés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les djihadistes ne font pas, en fait, la guerre pour faire. Non, non. Ils sont en train de se ravitailler. Donc, il faut chercher des camps de réfugiés. Il faut voir là où se trouvent les vivres pour pouvoir s'en procurer. Et vous avez constaté également que quand on regarde le point de vue stratégique de l'attaque, c'est à peu près la même chose. C'est sur moto, une cinquantaine de djihadistes qui se présentent sur moto, qui font d'abord, qui neutralisent les installations et tout, et avant de s'attaquer à ces paisibles citoyens.
Et ça, pour faire un peu un petit point sur cette attaque, un élu local de la région, joint par le studio Kalangou, indiquait, okay. Je cite, « Pour l'instant, nous confirmons la mort du président des réfugiés maliens et celle du président du comité de vigilance. Il y a également plusieurs personnes enlevées suite à cette attaque. Aussi, les assaillants ont endommagé les deux châteaux d'eau qui se trouvent à Intikan, sans épargner la station de pompage du village d'Ekanawan, située à quelques kilomètres de là. » Oui, mais Mona Diado, poursuivez.
Oui, c'est ce que je disais, en fait. Ils prennent toujours le temps de bien d'abord vérifier, de bien s'informer avant de venir faire l'attaque. Parce que quand on regarde, c'est à peu près la même procédure. C'est la même procédure qu'Inatès, c'est la même procédure que Chinagodère, c'est la même procédure aujourd'hui au niveau de ce camp des réfugiés maliens. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'ils font ça aujourd'hui? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à des camps militaires, mais ils s'attaquent plutôt à des camps de réfugiés? Parce que c'est là-bas où se trouvent les vivres. C'est là-bas où il faut s'approvisionner.
Pour vous, cette attaque, en tout cas, c'est une attaque de ravitaillement, en quelque sorte.
C'est une attaque de ravitaillement, en fait. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui, les réfugiés n'ont pas d'armes. Les réfugiés n'ont rien. Ils n'ont que les vivres qu'on met à leur disposition. Et aujourd'hui, ils ont pillé les vivres. Donc, ça veut dire que c'est une stratégie aujourd'hui de se ravitailler pour ces djihadistes.
Mais Mona, sur quoi aujourd'hui on peut miser pour prévenir ou prévenir ce genre de dégâts?
On a toujours dit, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, on constate que ces djihadistes ont le devant sur une force de défense et de sécurité. Ça veut dire qu'ils ont une stratégie de communication, une stratégie également de défense très mobile et très rapide. Et également, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut de temps à autre vraiment sécuriser ces camps de réfugiés. Yeah.
Nous revenons au studio, Hussein Issa. Alors, comment analysez-vous cette attaque contre le camp des réfugiés? Pour Maïmouna, en tout cas, cette attaque n'a pour objectif apparente que pour se ravitailler. Alors, on a vu que cela a fait des dégâts. Il y a eu quelques personnes tuées et des dégâts matériels, des vivres emportés et en tout cas, les châteaux d'eau endommagés.
Oh, mais je viens de dire quelque chose d'important. C'est que c'est une zone qui est en état d'urgence depuis des années. Moi, je ne peux pas comprendre que des motos viennent en masse. Avec à bord desquels se trouvent des gens en armes, ils viennent, ils s'en prennent à un camp. Ce n'est pas la première fois ici, même dans l'ouest, là, je crois, il y a eu le camp de Mangézé, là où ils sont venus, ils ont pris des véhicules. Je crois un véhicule où je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus. C'est dans la zone de Wallam, là, ils sont partis. Wallam, où, je ne sais pas, en tout cas dans la zone, dans la région de Tel Abyei. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'en prennent.
Qu'est-ce que tout cela signifie?
Mais ça signifie tout simplement que notre dispositif, là, il faut le revoir. Moi, je dis, quand on met des zones en état d'urgence, ça dit que c'est des zones militarisées. Je ne dis pas que des gens ne peuvent pas venir attaquer, mais ce n'est pas l'attaque en soi. C'est que quand tu attaques, c'est pouvoir
s'enfuir,
t'échapper,
qui est difficile.
Prendre des vivres. On a vu ce qui s'est passé dans l'Anzourou. Mmh. Où on est venu tuer 20 personnes.
Dans
on
trois
a pris
villages.
Des vivres, on a. Et ils vont jusqu'à proférer des menaces que nous allons venir.
Revenir.
Il y a un problème qui se pose. Parce que quand vous mettez. Parce que je crois qu'il y a une zone où les gens ont dit non. Au Burkina, dans l'Est, où je ne sais plus exactement c'est quelle partie du Burkina, où il y a une série d'attaques là, où les populations sont allées jusqu'à demander. Laissez-nous nous défendre. Parce que si vous n'êtes pas en mesure, vous mettez des mesures, vous dites voilà, à telle heure, machin, des choses comme ça. Les populations ne doivent pas sortir. Mais laissez ces gens-là, si vous ne pouvez pas les défendre, laissez-les se défendre, s'armer pour pouvoir se défendre.
Sauf que ça, c'est là, c'est les questions de milices. Autodéfense ont aussi des conséquences,
oui,
on l'a
mais
vu.
Les
l'expérience l'a démontré dans beaucoup de pays.
Alors, on peut les surveiller, les milices d'autodéfense, comme on dit, on peut savoir exactement qui fait quoi. Il faut les organiser. Il ne suffit pas de dire, voilà, vous pouvez constituer des milices d'autodéfense. Il faut les constituer, il faut responsabiliser. Il faut savoir qui fait quoi par rapport à ces milices-là.
Mais alors donc pour vous aujourd'hui, il faut revoir les dispositifs.
Non, le dispositif jusqu'ici, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Dans des zones où on dit, il n'y a pas de circulation de moto, il n'y a pas de circulation de véhicules à une certaine heure, et que des gens puissent venir en armes lourdes et ils attaquent pendant 2 heures, 3 heures de temps. Ils sont là. Ils finissent, ils sont là. Ils se pavanent dans les villages pour dire aux gens en ciblant. Et quand de l'autre côté, on demande aux populations, il faut collaborer. Alors que le plus souvent, les jeunes ne savent même pas par comment ils ont l'information, les informations, jusqu'à menacer les populations pour dire. Alors.
Nous avons compris en tout cas votre inquiétude, Ousseyn Issa. Gare Amadou, on a vu ce qui s'est passé hein, dans ces, la énième du Jard, en tout cas dans ces zones du Niger. Comment prévenir ces genres de dégâts?
Oui, d'abord, il faut dire que ce qui s'est passé à Intikane, c'est pratiquement une sorte de, d'opération commando ciblée. Parce que j'ai suivi le communiqué du HCR qui dit que visiblement, ils étaient venus pour tuer les personnes qu'ils ont tuées.
Voilà. Notamment le président des réfugiés maliens.
Voilà, certainement.
Le président du comité de vigilance.
Bien sûr, parce que c'est des gens qui ont refusé peut-être de collaborer avec les terroristes, qui ont refusé d'être complices pour qu'on vienne faire des attaques ou quelque chose comme ça. Donc, on a tué le chef, le président du comité de vigilance, n'est-ce pas, qui est là pour surveiller ce qui se passe dans le camp. On l'a tué aussi, et puis on a tué un autre. Donc, pratiquement, c'était ciblé. Ils étaient venus pour régler des comptes. En même temps, ils ont profité pour prendre des vies.
Hussein, il ne comprenait pas que non, malgré...
C'est vrai, ce que Hussein dit. Vous savez, ce qu'il dit est extrêmement vrai. Il faut revoir la stratégie. Parce que moi, je peux comprendre que deux personnes ou trois personnes sur une moto arrivent à se faufiler, à venir faire des trucs et repartir. Mais quand ils sont venus, une cinquantaine de motos, il paraît. Donc, il faut revoir la stratégie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça commence à devenir récurrent. Ces genres d'attaques, où des gens viennent à moto, 100 motos, 50 motos. Et c'est vrai, la frontière entre le Niger et le Mali, elle est très grande. 800 kilomètres de long. Vous vous rendez compte? 800, ça veut dire que la frontière entre le Niger et le Mali, c'est la distance, peut-être entre Niamey et je sais pas
pour moi. Finir, Garé, nous n'avons plus beaucoup de temps. Pour finir, sur quoi miser?
Ce sur quoi il faut miser, c'est vraiment essayer de renforcer en tout cas, le renseignement. Deuxième chose, c'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les gens au sein des villages, même si le verre est dans le flux. C'est-à-dire que les complices des terroristes sont la plupart du temps dans les localités. Si vous fouillez au niveau d'Intikane, là, il y a des complices des terroristes. Même dans le camp, il y a des complices des terroristes. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe.
Donc, miser en tout cas sur la collaboration
des populations. Sur la collaboration des gens. Et surtout, vraiment, faire en sorte que les forces de défense et de sécurité soient présentes un peu partout. Si elles ne peuvent pas être présentes, je suis d'accord avec l'idée de Hussein. C'est une idée qui est là, qui peut être étudiée. Les milices, il suffit justement de les encadrer, même s'il y a des risques. Mais quand on les encadre, je pense que ça peut éviter les dégâts ou les bavures.
10 secondes, Hussein.
10 secondes, c'est que il faut les gens qui collaborent là, il faut les sécuriser. Parce que si ils viennent, ils sont en contact avec ceux qui sont là, au nom des djihadistes qui surveillent, c'est eux qui transmettent.
Bien sûr. Et souvent, il y a des représailles.
Mais alors,
ça veut dire sécuriser, donc sécuriser les personnes qui collaborent avec les autorités.
Vous venez, une patrouille militaire vient, vous allez, le chef, le patron de la patrouille
vient. Vous les informez.
Vous causez avec eux, il y a quelqu'un qui est là-bas qui observe.
Il dit qu'un tel a été voir les militaires.
Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Merci, nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Merci à vous tous. Nous étions en compagnie de nos confrères Hussein Issa, journaliste freelance, Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara, et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali, régie vidéo Adama Dawaki. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la Fada. Et à partir de 18h15, samedi, le forum en Hausa sur la contribution des femmes dans la lutte contre le Covid-19. Et dimanche, le forum en Zarma sur le financement des partis politiques. Bonsoir.